Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir et merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
L'Infox s'impose souvent sur la réalité des faits. Le phénomène n'est pas nouveau et puise ses racines dans un passé lointain. La philosophie, qui étudie la pensée humaine depuis plus de 2000 ans, tente d'élucider cette menace ancienne, mais prévient que la vérité n'est jamais absolue. Elle est partielle, elle est provisoire, elle évolue au rythme des investigations de ceux qui sont à la recherche de cette vérité. Surtout, la quête de la vérité oblige à se mettre de côté ses opinions personnelles, ses émotions, son idéologie. On en parlera avec Alain Cambier, il est docteur en philosophie, il est professeur chargé de cours à Sciences Po Lille et il est l'auteur de « Philosophie de la post-vérité ». C'est aux éditions Hermann. Au Sénégal, aucune donnée ne confirme qu'il y a plus de 50 000 avortements par an dans le pays, comme l'a récemment titré un média local. Vérification faite par Valdez Onanina d'Africa Check. Mais tout de suite, la chronique « Les dessous de l'Infox ». Sophie Malibaud, Grégory Genevrier, bonsoir.
Bonsoir François.
Bonsoir.
Alors, cette semaine, la chronique des Dessous de l'Infox revient sur les propos polémiques du candidat à la présidentielle française, Éric Zemmour, concernant le gouvernement de Philippe Pétain durant la Seconde Guerre mondiale. En déplacement à Vichy ce jeudi, Emmanuel Macron a dénoncé une tentation de manipulation de l'histoire. On revient d'abord, Grégory, sur les propos visés par le chef de l'État.
Eh bien, sans le citer nommément, Emmanuel Macron fait directement allusion aux déclarations d'Éric Zemmour. L'ancien polémiste réaffirmait lors d'une interview en septembre dernier, je cite, « Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers ». Cette thèse, il la défend depuis de nombreuses années et présente Pétain comme le sauveur des Juifs français durant l'occupation entre 1940 et 1944. Ses propos ont déjà fait scandale et ont été qualifiés de révisionnistes par de nombreux responsables politiques.
Propos polémiques donc, mais basés sur une infox, Sophie Malibaud.
Oui, c'est une infox. La question ne fait plus débat puisqu'il y a une réalité historique qui repose sur des faits et des documents incontestables. S'il est vrai que les Juifs d'origine étrangère ont été les premiers ciblés par le gouvernement de Pétain, à partir de 1942, les Juifs français ont également fait l'objet de rafles, comme au Veldiv, par exemple, où 4000 enfants juifs environ seront déportés dans des camps de la mort, sur ordre de Vichy. Les registres du mémorial de la Shoah en attestent. On y trouve aussi, dans ces registres, des documents tels que le décret sur le statut des Juifs adopté le 3 octobre 40, un texte annoté par Pétain montrant comment il s'est personnellement employé à durcir le sort des Juifs en France à l'époque et pas seulement en zone occupée. Donc non, Pétain n'a ni protégé ni sauvé les Juifs français, comme le prétend Éric Zemmour. Selon l'historien Robert Paxton, l'ancien maréchal n'aurait même jamais demandé aux Allemands de ne pas les déporter.
Éric Zemmour s'attaque précisément aux travaux de Paxton qui, selon lui, sont à l'origine d'une doxa sur Vichy. Pourtant, les éléments qu'apporte l'historien états-unien dans son livre « La France de Vichy » paru en 1972, ils s'inscrivent dans un consensus historique. En s'appuyant sur les archives allemandes, françaises ou encore américaines, il est le premier à établir les responsabilités du régime de Pétain. Zemmour, lui, de son côté, il s'appuie sur une poignée d'historiens très contestés qui dédouanent en partie Pétain de ses responsabilités. Son obsession, c'est de dresser le portrait d'une France glorifiée qui n'a pas à rougir de son passé. Un discours basé sur des contre-vérités à même de séduire l'électorat d'extrême droite.
Et quel serait le raisonnement d'Éric Zemmour alors ?
En fait, le raisonnement d'Éric Zemmour va très loin. Il veut en finir avec, je cite, « la culpabilité et la repentance ». On essaye de culpabiliser le peuple français, dit-il, pour qu'il se soumette à l'invasion migratoire et à l'islamisation du pays. Ce sont ses propres termes. L'histoire de Vichy, vue par Zemmour, n'est donc qu'un élément dans un argumentaire visant à promouvoir la thèse conspirationniste du grand remplacement. Concernant son discours sur Pétain, Éric Zemmour a été jugé en février dernier pour contestation de crimes contre l'humanité. Le parquet avait requis 10 000 euros d'amende. Mais le tribunal de Paris l'a relaxé, jugeant que ses propos avaient été prononcés à brûle-pourpoint lors d'un débat sur la Syrie et tout en reconnaissant qu'il contenait la négation de la participation de Pétain à la politique d'extermination des Juifs menée par le régime nazi. Cette décision de justice passe en appel le 20 janvier prochain.
Les dessous de l'Infox.
Et notez le numéro WhatsApp pour vous contacter. Il est sur la page de l'émission. Et une autre chronique, bien sûr, la semaine prochaine. Merci à tous les deux. « La notion de vérité intéresse depuis longtemps les philosophes. On ne s'étonne donc pas que leurs réflexions, leurs recherches s'étendent aussi à ce qu'on appelle la post-vérité, quand l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits et construit des contre-vérités.
On en parle.
On en parle avec Alain Cambier. Il est docteur en philosophie, professeur chargé de cours à Sciences Po Lille et auteur de « Philosophie de la post-vérité », c'est aux éditions Hermann. Bonsoir Alain Cambier.
Bonsoir.
Alors en préambule, j'ai donné la définition du dictionnaire Larousse de la post-vérité. Quand l'opinion personnelle, l'idéologie, l'émotion, la croyance l'emportent sur la réalité des faits. Comment vous la définissez-vous, cette notion de post-vérité ?
Eh bien, c'est d'abord une notion qui nous vient du monde anglo-saxon et qui est censée signifier finalement que le temps d'exigence de vérité serait désormais révolu, que l'exigence de discrimination entre le vrai et le faux serait devenue superflue. Ce qui compterait finalement aujourd'hui ne serait plus que la force de persuasion mise pour déclarer une opinion. Fût-elle en contradiction, par exemple, avec tous les faits, on pourrait dire que relayer sur les réseaux sociaux, c'est une forme actuelle de l'obscurantisme propre à nos sociétés peut-être postmodernes, qui sont caractérisées, me semble-t-il, à la fois par le développement d'un individualisme exacerbé et par un relativisme radical, que ce soit du point de vue d'ailleurs de la connaissance ou du point de vue éthique.
Mais la post-vérité, ça n'est pas le mensonge.
Non, ce n'est pas le mensonge au sens où la différence entre le menteur et les partisans de la post-vérité, c'est que le premier ne nie pas qu'il puisse y avoir une vérité. Au contraire, le propre même du menteur, c'est de justement connaître la vérité, mais de la cacher par ruse pour arriver à ses fins. En ce sens, le menteur respecte les règles du jeu, celles du partage entre le vrai et le faux. Il le reconnaît implicitement. En revanche, justement, ce qui fait vraiment la différence avec le partisan de la post-vérité, c'est que celui-ci sape les fondements même de toute recherche de la vérité et qu'il suffirait selon lui de faire croire en dépit même de la confrontation à la réalité. Mmh. Il remet même en cause, pourrait-on dire, l'existence même d'une réalité objective.
Est-ce qu'on peut donner une définition alors de cette réalité objective, de cette vérité ?
Pour la vérité, on peut la définir comme la norme de tout discours qui prétend parler de ce qui est, qui prétend donc nous fournir un savoir justifié concernant la réalité. Ce qui signifie que donc la vérité permet donc d'établir des critères d'évaluation pour distinguer à l'aune de la réalité le vrai du faux, le vrai de l'erreur, le vrai de l'illusion. Mais l'exigence de vérité, justement, joue un rôle déterminant dans des domaines très fondamentaux dans la condition humaine, comme celui de la connaissance scientifique, de la connaissance médicale, mais aussi dans le domaine du droit.
Quelles sont, Alain Cambier, les conditions qui permettent d'approcher la vérité ? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on doit aborder cette recherche-là ?
Il semble que, justement, l'exigence de vérité implique de nous départir de nous-mêmes, si l'on veut rechercher la vérité, de nous départir de nos états d'âme subjectifs pour nous régler sur une réalité objective qui nécessairement nous résiste, donc qui fait échec à nos fantasmes. Un énoncé susceptible d'être vrai renvoie avant tout à des états de choses, à des faits qui sont, pourrait-on dire, totalement indépendants de nos représentations, de nos affects, de nos projections psychologiques.
La recherche du vrai implique donc une enquête et le désintéressement, la distance de celui qui enquête, c'est ça ?
Voilà, c'est nécessairement une épreuve, puisqu'il faut un peu penser contre ses premières croyances, ses premières convictions, et développer une enquête. Je rappelle simplement que Charles Sanders Peirce disait que la science consiste en une enquête et non en une doctrine. Eh bien, cet esprit d'enquête implique donc une véritable épreuve, puisqu'il faut d'abord penser contre ses propres préjugés.
Et en gardant en tête que la science est toujours en marche, que la vérité scientifique évolue et qu'elle est partielle, qu'elle est provisoire.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, les scientifiques ne sont pas des marchands de vérité absolue. Et ils ne délivrent que des vérités partielles, des faisceaux d'indices, des faisceaux de preuves plus ou moins convergents. Les vérités scientifiques sont toujours susceptibles de rectification, de refonte. Donc, c'est à la fois ce qui fait le mérite de la science, cette patience dans l'effort pour trouver des vérités qui se complètent comme un puzzle.
Alain Cambier, vous écrivez que la post-vérité a du succès parce qu'il est facile de tenir un discours déconnecté du réel qui vise uniquement à impressionner les foules. Plus facile de sortir une infox, donc, qui demande juste de l'imagination, qu'une info fiable et vérifiée, et tous les efforts que cela exige de mener une enquête objective.
Voilà, exactement. Vous avez parlé d'imagination, je crois que le mot est juste. C'est-à-dire que dans le domaine des infox, il suffit d'interpréter les événements, voire les créer de toutes pièces, plutôt que de vouloir établir des faits. Les infox, finalement, jouent sur l'événement pour ajouter du surprenant au surprenant, pour créer un effet de sidération qui, finalement, tourne le dos à tout esprit de réflexion critique. Alors que, justement, le propre même de l'homme de science ou du juriste, etc., c'est d'établir des faits, de s'en tenir à des faits, et de montrer qu'il y a des limites à l'interprétation, des limites aux extrapolations.
Alors, on gobe les infox, mais on en produit également. Le discours de tout un chacun ne s'embarrasse pas toujours de la vérité, il faut bien le dire.
Effectivement, dans notre existence vécue, nous vivons plus souvent d'illusions, et il serait tout à fait discutable de vouloir s'en débarrasser radicalement, dans la mesure où ça fait partie de notre existence incarnée. D'un autre côté, il y a des illusions qui peuvent nous être fatales. Par exemple, la politique de l'autruche, etc. C'est pour cette raison que j'ai pointé dans mon ouvrage ce que j'ai appelé le complexe de Jocaste, c'est-à-dire la dénégation de la réalité au nom du principe du plaisir. C'est-à-dire cette attitude de faire comme si de rien n'était, résister à l'esprit d'enquête pour refuser de voir le problème en face. Et cette attitude qui rejoint de ce qu'on appelle aujourd'hui avec les anglo-saxons le wishful thinking, c'est-à-dire configurer ses croyances sur le patron de ce désir. Vouloir voir ce que l'on croit plutôt que de croire ce que l'on voit, ne croire que ce qui nous plaît, ne croire que ce qui nous arrange. Et cela conduit nécessairement à une impasse.
Pourquoi le philosophe Alain Cambier s'intéresse-t-il à la post-vérité ?
Bien, dans la mesure où toute l'histoire de la philosophie est au cœur des démêlés entre le souci de la vérité et sa remise en question. Les Grecs avaient inventé l'étau de la logique pour surmonter l'arbitraire des opinions, déjà donc à cette époque antique, et aujourd'hui donc nous observons une montée inquiétante de l'irrationalisme. La post-vérité qui a été l'apanage au XXe siècle des régimes totalitaires est devenue triomphante au cœur même de nos démocraties occidentales, que l'on tend à réduire, que les populistes tendent à réduire malheureusement à un marché des opinions. Et donc j'ai essayé de rappeler que l'exigence de la vérité est nécessaire à l'homme pour éviter les illusions qui peuvent lui être fatales en quelque sorte, qu'il est nécessaire justement pour s'orienter dans l'existence, de sortir du régime hallucinatoire de la connaissance, de s'appuyer sur qu'il y a un intérêt pragmatique dans la condition humaine à être attaché à la recherche de la vérité plutôt que de s'en tenir à finalement l'expression de la post-vérité qui est souvent animée par le ressentiment et qui ne peut conduire qu'à la violence, qui est l'autre nom de la raison du plus fort et du plus fou.
Alain Cambier, docteur en philosophie, professeur chargé de cours à Sciences Po Lille, auteur, je rappelle le titre de cet ouvrage, Philosophie de la post-vérité, c'est aux éditions Hermann. Merci et bonsoir. Bonsoir Valdez Onanina en direct de Dakar. Africa Check vient de publier un article qui examine une donnée sur le nombre d'avortements annuels au Sénégal. Qu'en est-il exactement ?
Oui François, le jeudi 9 septembre 2021, des organisations sénégalaises ont tenu une conférence de presse pour exprimer leur opposition à la légalisation de l'avortement qu'elles estiment de plus en plus prônée par des organisations féministes. Et ces derniers temps, le débat sur la légalisation ou non de l'avortement s'est déplacé d'ailleurs sur Internet, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et c'est donc dans ce contexte que le site d'information Ola.sn a publié un article sous le titre « Sénégal, plus de 50 000 avortements provoqués ». par an.
Et ce média en question, alors le site Ola.sn, il s'est appuyé sur quelle source ?
Alors, dans son article, Ola.sn cite des chiffres de 2012 de l'Institut Guttmacher, qui est basé aux États-Unis et qui se présente comme une organisation de recherche et de politique engagée dans la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs.
Et vous avez parlé à l'Institut Guttmacher pour en avoir le cœur net ?
Oui, nous leur avons parlé. Le chiffre, plus de 50 000 avortements chaque année, ce chiffre-là, il porte uniquement sur l'année 2012. L'Institut Guttmacher a expliqué à Africa Check dans un courrier électronique que l'estimation de plus de 50 000 avortements était vraie, mais que celle-ci ne concerne, comme je l'ai déjà dit, uniquement l'année 2012. Et plus précisément, il s'agit de 51 500 avortements qui ont été provoqués au Sénégal en 2012, soit un taux de 17 avortements pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans. La plupart des avortements avaient été pratiqués dans la clandestinité et dans des environnements non médicalisés, selon les chiffres, selon le rapport de l'Institut Guttmacher. Et j'ajoute rapidement que cette estimation correspondait aux chiffres annuel de l'incidence de l'avortement au Sénégal en 2012, d'après l'Institut Guttmacher, qui a tenu à souligner que, compte tenu de la rareté des données publiques sur l'avortement, ce chiffre aujourd'hui pourrait avoir changé.
Et quels sont donc les chiffres actuels alors sur l'avortement au Sénégal ? Est-ce qu'il en existe d'abord ?
Alors, l'Agence nationale de la statistique de la démographie du Sénégal a indiqué à Africa Check ne pas disposer de données sur le nombre d'avortements recensés au Sénégal sur plusieurs années. Et nous a d'ailleurs recommandé de consulter le ministère de la Santé. Et donc, un responsable du ministère sénégalais de la Santé nous a précisé que les données officielles sur le sujet ne comportent pas de statistiques pour l'année 2012, faute d'exhaustivité de ces données-là. Et en ce qui concerne les années plus récentes, comme 2019 ou 2020, le ministère de la Santé dispose de données provisoires que nous avons quand même consultées. Et ces données provisoires donnent 38 878 avortements constatés en 2019 pour 34 079 avortements en 2020. Africa Check a aussi consulté les annuaires des statistiques sanitaires et sociales publiées en 2018, 2017, 2015. Et pour aucune de ces années, François, le nombre d'avortements n'a atteint 40 000.
Est-ce qu'il y a des chiffres disponibles auprès des institutions internationales ?
On a même regardé du côté des agences onusiennes, mais toujours pas de données sur le Sénégal. L'UNFPA, qui est l'agence des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, nous a même recommandé de nous rapprocher de certaines organisations de la société civile. Et quant à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, elle souligne dans un courrier Africa Check toujours que les données à sa disposition sont d'ordre régional et qu'elle disposera d'estimations au niveau national au début de l'année prochaine, donc en 2022. Et pour finir, François, je finis cette fois, juste question de mettre un peu les choses dans leur contexte. Les restrictions légales autour de l'avortement compliquent la compilation de données sur le sujet au Sénégal, où l'interruption volontaire de grossesse est interdite et punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, selon l'article 305 du Code pénal. Mais ceci dit, l'avortement est toutefois autorisé de façon exceptionnelle en cas de danger pour la vie de la mère. En tout cas, plusieurs organisations qui travaillent sur cette question et à qui nous avons parlé pour les besoins de cet article, comme Marie Stopes International, Girl Generation ou l'Association des juristes sénégalaises. Toutes ces organisations ont souligné qu'obtenir des données sur l'avortement au Sénégal est un véritable défi.
Merci Valdez Onanina pour toutes ces précisions en direct de Dakar au Sénégal. On retient donc qu'aucune donnée ne confirme qu'il y a plus de 50 000 avortements par an dans le pays, comme l'a récemment titré un média local, en s'appuyant donc sur des chiffres qui ne concernent que l'année 2012. L'article est d'ailleurs à lire sur votre site internet africacheck.org.
Vérification faite.
Et voilà, c'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci de votre attention. Vous pouvez bien sûr retrouver le podcast de toutes nos émissions sur notre site internet. Au générique de cette édition des Dessous de l'Infox, attaché de production Florence Ponce, documentation Déborah Lepage, réalisation Hélène Avril. À la présentation,
François Bernard.
Qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine sur RFI.
Une semaine d'actualité